Le Soleil, les planètes et les étoiles semblent tous tourner autour de la Terre en 24 heures. Pour les planètes et les étoiles, ce mouvement, appelé mouvement diurne, peut être facilement observé si on examine le ciel tout au long d'une nuit claire. En plus du mouvement diurne, le Soleil et les planètes possèdent un mouvement beaucoup plus lent, appelé mouvement annuel, qui devient apparent si on observe la même région du ciel nuit après nuit sur une période de plusieurs semaines. On remarque alors que les planètes se déplacent continuellement par rapport aux étoiles, allant jusqu'à rebrousser chemin de temps à autre.
Chaque année, un peu partout en France, l'Association française d'astronomie organise la Nuit des étoiles, un moment propice à la découverte de notre Voie lactée et ses planètes, qui permet aux amateurs avertis, mais surtout au public non initié, curieux, de pouvoir observer l'espace à l'aide de matériel spécifique. Les 3, 4 et 5 août derniers, de nombreuses animations autour de cet événement étaient également organisées dans la région. Au parc d'Himercourt de Saint-Laurent-Blangy, c'était l'AAS, Association d'animation scientifique, qui coordonnait cette 28e édition en proposant notamment une conférence intitulée « Mars, planète des fantasmes ». Entretien avec Raymond Pribilski, membre de l'AAS, qui animait cette conférence.
Je suis animateur de la section astronomie de l'association d'animation scientifique de Saint-Laurent-Blangy.
Alors donc, vous venez donner une conférence sur la planète Mars et la planète des fantasmes. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette conférence ? Qu'est-ce que vous avez brassé un petit peu autour de cette planète Mars ?
Je l'ai intitulée de cette manière pour la rendre amusante, on va dire. D'abord parce qu'il y a toute l'histoire des canaux de Mars et qui ont donné à quelques écrivains des idées extraordinaires qui ont été transformées en films. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça fantasme. Et puis les deux derniers fantasmes qui sont actuels, c'est le fait d'envoyer l'homme sur Mars et puis aussi surtout d'y chercher la vie, qui est en fait la partie la plus passionnante.
Alors du coup, la vie justement, il y a quelques jours, une quinzaine de jours à peu près, on a découvert un lac souterrain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait forcément quelque chose ?
Non, moi à titre personnel je ne le sais pas puisque je ne suis pas dans les milieux autorisés. Ceci étant, quand quelque chose est publié, c'est là à partir de ce moment-là qu'on en parle. Mais après coup, j'ai pu lire que cette info existait déjà il y a plus d'un an. D'accord. Sauf qu'il a fallu qu'elle soit confirmée avant de pouvoir être publiée dans une revue scientifique digne de ce nom.
Alors, c'est la 28e édition de la Nuit des Étoiles. Bon, aujourd'hui, apparemment, le ciel est un peu voilé.
On a véritablement pas de chance. Déjà, il y a une semaine, l'éclipse de lune a été un fiasco complet, puisque c'est le seul jour où il s'est décidé à pleuvoir. Et puis encore ce soir, normalement, d'après la météo, le ciel devait être dégagé. Et puis, malheureusement, c'est pas tout à fait le cas.
Donc on est ici au parc d'Himercourt, à Saint-Laurent-Blangy. Est-ce qu'on voit les étoiles en milieu urbain comme on les voit à la campagne ou c'est complètement différent ?
Non, en milieu urbain, il est quasiment difficile de distinguer les étoiles. On ne sait même pas reconnaître les constellations en milieu urbain. On ne voit que les étoiles les plus brillantes. Et donc on voit pas les étoiles qui sont, on va dire, un petit peu secondaires.
Et est-ce que la pollution de l'air, évidemment, joue un rôle sur la visibilité, justement ?
La pollution de l'air, non. C'est vraiment la pollution lumineuse, quoi. C'est le fait que les communes n'arrivent pas à prendre la décision d'éteindre les lampadaires publics qui ne servent strictement à rien au-delà de 23 heures.
Alors, vous, j'imagine qu'en tant que membre de l'association, vous êtes un passionné. Quel est votre meilleur souvenir, justement, d'une observation des étoiles et des planètes ?
J'ai un très bon souvenir, naturellement, de l'éclipse de soleil en 1999. Je ne suis pas resté dans la région. J'ai eu la bonne idée d'aller au Tréport. Et là, il a fait, comme on était au bord de la mer, on a eu un ciel dégagé, alors que tous mes amis qui étaient restés ici sur la Rajoie, eux n'ont strictement rien vu. Donc ça, c'est un très bon souvenir. L'autre souvenir, il remonte à très très loin, il y a plus de 30 ans ou 35 ans. C'est la première fois où j'ai mis l'œil à un télescope. Et j'ai vu la planète Saturne dans un télescope. Ça, c'est aussi un souvenir intense. Puisque c'était la, en quelque sorte la première émotion astronomique.
Ce soir, il y avait quand même pas mal de petits jeunes. Est-ce qu'au sein de votre association, la jeunesse est présente également ou c'est vraiment des gens qui sont déjà initiés
Non, on différencie deux choses. C'est-à-dire qu'on se réunit tous les vendredis à 20h30, mais ce sont surtout des adultes ou vraiment des grands ados. Et par contre, j'ai mon collègue Géry qui, le mercredi après-midi, accueille les jeunes. Au niveau des jeunes, c'est de l'initiation et c'est leur donner le goût à l'astronomie. Alors qu'avec les adultes, je fais ce genre d'animation comme ce soir sur d'autres sujets. J'aborde aussi des sujets plus techniques, puisque ici je savais que je devais faire quelque chose de grand public. Donc je ne vais pas trop dans les détails. Et puis aussi, comme on avait la contrainte horaire, comme vous avez pu le voir, j'ai passé quelques slides, quelques diapos plus vite pour ne pas non plus donner trop d'infos inutiles, quoi.
Et vous avez eu quelques questions dans le public ? Quel genre de questions éventuellement vous a posé ?
C'était des questions très intéressantes et comme par hasard, c'était surtout les jeunes qui posent les questions. Les adultes n'osent pas trop alors que les jeunes n'ont pas cette réserve. Et donc, ça a été sur les aspects, par exemple, comme le dernier point que j'ai abordé, c'est celui de la vie. Donc, a priori, les bactéries, ça les branche bien. Comme je leur ai expliqué que le sol de Mars est particulièrement toxique, et par contre, le fait, la dernière découverte d'un lac souterrain, donc à l'abri de la toxicité de la surface, et peut-être que dans quelques décennies, on arrivera à trouver que la vie a non seulement a existé au début de l'histoire de Mars, mais peut-être survit encore dans ce lac souterrain qui vient d'être découvert pas loin du pôle sud de Mars.
Enfin, dernière question, est-ce que vous avez d'autres activités prévues bientôt qui vont arriver ?
Alors oui, en début de septembre, c'est le 8, avec la CUA et le CPIE, on fait une soirée à Roclincourt, insectes et ciel étoilé. C'est-à-dire là, on réunit les deux, c'est-à-dire les amateurs de la biodiversité, et en même temps, on fera les légendes du ciel à travers les constellations. Et le rendez-vous suivant, ça sera à Cité Nature, lors de la fête de la science, vers la mi-octobre.
Avant de retrouver un autre membre de l'association pour en savoir plus sur l'observation de Mars, je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence.
Donc le déplacement de Mars, en fait, c'est son parcours pendant toute une année, de janvier 2015 à décembre 2015. Alors, que se passe-t-il en réalité ? Le point bleu ici, c'est la Terre. Les points rouges, c'est l'orbite de Mars. À un moment donné, la Terre se trouve à cette position et elle voit Mars qui se projette sur le ciel étoilé et c'est l'endroit qui est noté numéro 1. Il faut savoir que dans le système solaire, plus les planètes sont proches du Soleil, plus elles tournent vite autour de celui-ci. Ainsi, pour la Terre, une année, c'est un an, 365 jours, et Mars, c'est 2 ans. Par contre, Vénus, qui est plus proche du Soleil, c'est 228 jours. Mercure, qui est encore plus près, c'est 88 jours. Et donc, comme la Terre va plus vite, à un moment donné, elle va commencer à rattraper Mars, et hop, elle verra Mars sur le fond du ciel étoilé, à cet endroit-là. Elle arrive à cette position-là, où en fait, les deux planètes sont les plus proches, et donc c'est le point 3 qui est projeté. À ce propos, vendredi dernier, vendredi 27, le jour de l'éclipse de lune, que personne d'entre vous, s'il est resté dans la région, n'a vu, hein, parce qu'il a fait, c'est la seule journée où il a fait un temps absolument exécrable. C'était le jour de l'éclipse de lune. Hein, voilà. Et donc, c'était le moment où la Terre et Mars sont les plus proches l'une de l'autre. Et puis, un petit moment après, la Terre tourne plus vite, elle dépasse Mars, et elle voit Mars qui continue son mouvement de recul. Et enfin, plus loin, Mars reprend son mouvement normal dans le ciel et son avance. Et cette rétrogradation de Mars, puisque c'est ainsi que ça s'appelle, c'est, avec la planète Mars, la plus spectaculaire, la plus visible. Mais sinon, toutes les planètes ont ce mouvement de rétrogradation. Que ce soit des planètes extérieures, c'est-à-dire comme Mars, Jupiter, Saturne, qui sont plus loin du Soleil, mais Vénus et Mercure, qui sont plus proches, ont aussi ce mouvement de rétrogradation dans le ciel, mais qui est beaucoup, beaucoup moins visible. Alors, à votre avis, depuis combien de temps on connaît ce phénomène ? Une idée ? Oui ?
Depuis 1960.
Oh non, non, non. Depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité.
Depuis l'Antiquité. Et en fait, les premiers écrits qui parlent de la rétrogradation de Mars, c'est les Égyptiens.
De drôles de télescopes géants étaient installés un peu partout, prêts à nous livrer les secrets du ciel. On part à la rencontre d'un membre de l'association d'animation scientifique pour en savoir plus.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je vois que vous prenez des photos, vous réglez des choses avec une espèce de lunette. Vous pouvez expliquer un petit peu ?
Alors là, c'est un télescope. Donc je suis en train de régler le chercheur avec le télescope. En fait, le chercheur permet de capter en premier, de viser une étoile, et ensuite on va affiner avec le télescope. C'est-à-dire que ça nous permet de viser et de retrouver donc l'étoile ou la planète observée dans l'oculaire du télescope.
Alors, du coup, est-ce que la luminosité, parce qu'il fait encore clair, on voit pas grand-chose, là, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose à travers ?
Non, pour l'instant, non. Là, il faut qu'il fasse un peu plus noir. Hein. Dès que les étoiles commencent à apparaître, on va pouvoir observer un petit peu, en espérant que ce ciel un peu voilé disparaisse. Mais je pense que ça devrait se dégager un petit peu.
Est-ce que ce télescope permet de prendre des photos, de fixer un petit peu ce que vous voyez ?
Alors là actuellement non, on est en mode visuel. Hein. Ce soir c'est plus de l'observation visuelle, comme on a ça permet un petit peu de faire connaître au public de découvrir l'astronomie. Donc là aujourd'hui il n'y aura pas de photos. C'est éventuellement possible avec un appareil photo ou un téléphone. Au niveau de l'oculaire, des fois on peut réussir à avoir une petite photo, mais en termes de qualité, c'est pas de la photo pro. Là, il faut plus de préparation pour faire vraiment de la photo du ciel profond.
Une fois que votre télescope est installé, est-ce qu'il reste fixe ? Est-ce que vous le bougez ? Ou vous visez vraiment un coin du ciel spécifique ?
Non, en fait, il suffit de mettre ce qu'on appelle le télescope en station. On fait une mise en station, elle va permettre de faire un suivi du ciel de manière automatique. C'est-à-dire que ça va suivre la rotation de la Terre, c'est-à-dire que ça vous permet d'observer un endroit précis du ciel et que ça reste fixe dessus. Ensuite, pour les montures qui sont motorisées, ça permet également d'aller chercher un objet spécifique du ciel qu'on souhaite observer.
Est-ce que vous espérez voir quelque chose d'un petit peu extraordinaire ce soir ? Est-ce que ça s'est déjà produit d'ailleurs ?
Extraordinaire, non, pas spécialement. On n'y a pas de. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir l'éclipse de lune qui s'est. Malheureusement, on n'a pas eu le temps non plus. Mais bon, ce soir, on va pouvoir observer Mars, qui ne devrait pas tarder à se montrer. Et donc, ça sera, je pense, l'objet principal de ce soir. Et si le ciel se découvre un petit peu, je pense qu'on va essayer d'observer d'autres objets, toujours à condition que le ciel soit meilleur.
Donc, ce qui concerne Mars, justement, ces derniers jours, on a eu quand même quelque chose d'assez insolite, puisque on a découvert qu'il y avait éventuellement de l'eau dans certaines couches de Mars. Est-ce qu'il y a vraiment, forcément, nécessairement de l'eau? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une certaine forme de vie sur Mars?
Oula, c'est une question bien compliquée. Surtout pour nous, les gérés astronomes, là, c'est plus du... Donc, a priori, ils auraient détecté, effectivement, de l'eau à 1 km sous Terre, je crois. Hein. Et donc là, de la vie, peut-être que ça existait. Hein. Aujourd'hui, le problème, c'est l'atmosphère qui fait qu'il n'y a pas de vie possible. Alors, après, à moins de creuser dans Mars et d'aller voir un peu plus profond, là, il n'y a que la NASA qui est en mesure de faire toutes ces expériences afin de nous dire si, effectivement, il y aurait de la vie en cours sur Mars.
Avant de clore ce sujet, on écoute quelques réactions d'enfants et de parents pour connaître leurs ressentis. Vous vous appelez comment ?
Alexandre.
Florian.
Alors, pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que vous avez vu dans le télescope ?
Un point blanc.
Qu'est-ce que c'est à votre avis ?
Une étoile.
Ouais, et vous saviez un petit peu de quelle étoile il s'agissait ?
Non.
Non ? Vous avez assisté à la conférence ? Est-ce que ça vous a plu ?
Oui.
Qu'est-ce que t'as appris ? T'as appris des choses ?
Ouais, une étoile c'est une planète.
Qu'est-ce qui te plaît dans l'astronomie ?
Les planètes, l'espace, les étoiles, le ciel.
Et vous madame, vous les avez emmenées par curiosité ou est-ce que vous êtes passionnée vous-même d'astronomie ?
Par curiosité surtout, ouais.
Ouais. Et la conférence, vous en avez pensé quoi finalement ?
Très bien, très complète. Mais bon après pour les enfants selon l'âge, je serais que ça paraissait un petit peu long pour un enfant de 8 ans. Mais après c'était très bien, hein. Très très bien.
Tu t'appelles comment ?
Émile.
Alors, tu as assisté à la conférence, je vois que tu as une petite carte d'ailleurs dans tes mains. Est-ce que ça t'a plu la conférence ? Et qu'est-ce que tu as vu dans le télescope alors ?
Une étoile.
Et tu sais laquelle c'est ?
Non.
Et vous monsieur, alors vous êtes passionné d'astronomie à la base ?
Amateur, oui.
Alors, vous avez assisté également à la conférence, vous en avez pensé quoi ?
C'était intéressant, très intéressant. Il y avait pas mal de choses en fait qu'on connaissait pas sur Mars. Et c'était plutôt pas mal.
C'était un reportage autour de la 28e édition de la Nuit des Étoiles, réalisée au parc d'Himercourt de Saint-Laurent-Blangy, en compagnie de l'AAS, Association d'Animation Scientifique.